qui vient de cette séance ordinaire. Alors, avant toute chose, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons enfin réunis dans la même salle pour la première fois depuis le début de la pandémie. J'en profite pour souligner la contribution de la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans ce grand effort collectif visant à contrer la propagation du virus. Nous avons eu la chance de ne pas connaître d'éclosion importante de COVID-19 sur notre territoire, car tout le monde a collaboré efficacement. Permettez-moi maintenant de vous présenter une mise à jour du plan d'action sur la coloration de l'eau potable. Depuis la mise en ligne du rapport d'événement sur la coloration de l'eau, le 28 juillet dernier, 20 citoyens ont déclaré un épisode de coloration et 29 épisodes au total ont été recensés, certains ayant relevé plus d'un épisode. Ces statistiques indiquent que les efforts des dernières semaines ont porté leurs fruits. Advenant un problème de coloration, j'invite nos citoyennes et citoyens à remplir ce rapport disponible en ligne afin de nous aider dans le cadre du plan d'action. Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à une vaste opération de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc, ce qui contribuera à prévenir davantage la coloration de l'eau. Ce soir, le conseil municipal adoptera un règlement précisant les aménagements autorisés, les restrictions en vigueur en bordure de la digue. Veuillez noter que la ville est en discussion avec les gouvernements du Québec et du Canada afin d'obtenir certains assouplissements à ce règlement, comme l'ont demandé des citoyens, entre autres en ce qui concerne l'aménagement et le rehaussement de terrain en bordure de la digue. Quant au règlement adopté ce soir, je tiens à remercier les conseillers qui ont contribué à la rédaction finale du règlement au bénéfice de nos riverains. En terminant, je souhaite aux enfants et aux enseignants une excellente rentrée scolaire en cette période de pandémie et j'invite les automobilistes à redoubler de vigilance sur notre territoire, surtout à proximité des écoles. Alors, merci de votre attention. Alors, nous allons débuter la séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue le 25 août à 19h30. Au centre communautaire situé au 99 rue de la Mairie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, évidemment. Alors, nous allons procéder à l'adoption du point numéro 1, l'ordre du jour.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Qu'il propose. Qu'il l'appuie. Point numéro 2, procès-verbal, adoption.
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juillet 2020 tel que soumis.
Qu'il propose.
Je le propose.
Qu'il l'appuie.
Je l'appuie. Excusez-moi, Mme la mairesse, est-ce que l'Assemblée est enregistrée pour que ça va être diffusé en ligne?
Oui, M. Robillard.
OK. Est-ce qu'on peut, les conseillers qui appuient, qui proposent, est-ce qu'ils peuvent vous identifier?
Oui. OK. Merci. Alors, point numéro 3, liste des comptes à payer.
Il est résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 25 août 2020, à savoir le registre des chèques émis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 223 010,87, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 473 156,3, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 2 442 568,48, depuis que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs.
Qui le propose?
Qui
l'appuie? 4.1, règlement 684, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Alors, il s'agit d'un avis de motion.
Je donne avis de motion. À l'effet d'une prochaine séance du conseil, vous ferez présenter le règlement 684 relatif à l'obligation d'installer des et dépose dans ce sens le projet de loi. Depuis, il demande les faits de dispenser de la lecture du règlement, puisque chacun des conseillers a reçu une copie.
Alors, il s'agit ici d'un règlement qui nous est demandé par notre compagnie d'assurance. C'est contre c'est une protection contre les dégâts d'eau. Et ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir un clapet anti-retour. Je le sais qu'à la ville, on l'exige. Mais là, la compagnie d'assurance qui nous assure nous demande d'avoir un règlement distinct. Alors, nous allons adopter un règlement distinct quant au clapet non. 4.2, la démotion quant au règlement numéro 568-3, modifiant le règlement 568 de prévention sur les incendies.
Et je vous donne la démotion à l'effet d'une prochaine séance du conseil. Je présenterai, vous ferez présenter le règlement numéro 568-3, modifiant le règlement 568 de prévention sur les incendies et dépôt dans ce sens de projet de loi. Je suis devant l'effet de dispenser la lecture du règlement de chacun des conseillers de son copie.
Alors, il s'agit ici d'une demande du service des incendies afin d'ajouter qu'il ne sera pas permis d'utiliser un foyer extérieur pour faire de la nourriture si la SOPFEU émet un avis d'interdiction de feu à ciel ouvert. Alors, nous allons passer au point 4.3. C'est un avis de motion quant au règlement 1400-59 modifiant le règlement 1400 afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705.
Et je pose un avis de motion à l'effet d'une prochaine séance du conseil de présenter, vous ferez présenter le règlement 1400-59 modifiant le règlement 1400 afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705 qui dépose dans ce sens le projet. Depuis le moment des faits de dispenser de la lecture, le règlement, puisque chacun est conseillé à la machine de vie.
Alors, il s'agit ici d'une modification de la grille. Il s'agit de la région de la rue André. Alors, on modifie, au lieu d'avoir du 6 à 9 logements, ça va être du 3 logements. Nous allons passer au point numéro 4.4, l'avis de motion quant au règlement 1400-60, modifiant le règlement 1400 afin de modifier le plan de zonage pour agrandir la zone H711 à même une partie de la zone H710.
Il me faut d'un avis de motion à l'effet d'une prochaine séance du conseil pour présenter ou faire présenter le règlement 1400-60. Modifiant le règlement 1400 afin de modifier le plan de tournage pour agrandir la zone H711 à même une partie de la zone H710 et dépose dans ce sens le projet. Depuis avant l'effet de dispenser la lecture du règlement, puisque chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, il s'agit ici d'agrandir la zone H711 à même une partie de la zone 710. Sur la, entre autres, la 32e avenue, afin de permettre seulement de la classe unifamiliale. Et ça, c'est pour les gens qui connaissent l'endroit, là, c'est l'ancien terrain de Miron. On a une zone où on permet du multi. Alors, les gens qui étaient sur la 32e ou dans ces alentours-là avaient très peur de se retrouver à... Parce que s'il y avait un incendie et qu'on avait un 5000 pieds carrés ou même un deuxième terrain à côté, de se retrouver avec du multi à côté de chez eux entre deux unifamiliales.
Ça inclut juste la 32 et non le bout de la 33e, là, parce que la demande, dans le fond, les citoyens provient de la 33.
Il y avait un citoyen sur la 33. Ce citoyen-là, quand nous l'avons rencontré, il était conscient que ça ne modifierait pas la propriété à côté de chez lui et ceux sur le chemin d'Oka. Il était au courant. Par contre, il y avait une dame assise dans la salle des caucus quand nous l'avons rencontrée. Et cette dame-là était sur la rue Lorrain, tout près de la 32e avenue. Alors, on le modifie de façon à ce que les gens puissent... n'aient pas de multi à côté de chez eux quand c'est du familial. Alors, nous allons passer au point 5.1, premier projet de règlement P1-1400-59, modifiant le règlement 1400 afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dû être donné à la séance tenue le 25 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement P1-1400-59, modifiant le règlement 1400, afin de modifier la grille des spécifications de la zone H705. Il y a l'exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement deux jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie? Alors, c'est ce que, dans la motion tout à l'heure, il s'agit de la rue André, là, qui, ça va être, on modifie la grille pour avoir trois logements au lieu de 6 à 9 logements. 5.2, premier projet de règlement P1-1400-60, modifiant le règlement 1400 afin de modifier le plan de zonage pour agrandir la zone H711 à même une partie de la zone H710.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant que le conseil municipal désire modifier le plan de zonage pour agrandir la zone H711 à même la zone H710, considérant que l'avis de motion a du moins été donné à la séance tenue le 25 août 2020. En conséquence, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement P1-1400-60, modifiant le règlement 1400, afin de modifier le plan de zonage pour agrandir la zone H711 à même une partie de la zone H710. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement deux jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour l'adoption.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
Il
y a alors, c'est la 32e. Alors, 5.3, second projet de règlement P2-1400-58, modifiant le règlement 1400 afin de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dû être donné à la séance tenue le 28 juillet 2020 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation publique n'a donné lieu à aucune modification. En conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1400-58. Modifiant le règlement 1400 et de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée. Il y a exemption avec ça puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement deux jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui propose? Et qui l'appuie? Alors, il s'agit ici de modifier l'élévation du niveau du rez-de-chaussée à 2,5 mètres au lieu de 2 mètres. Au-dessus du niveau moyen de la couronne de rue. Et ce règlement-là, on l'a modifié surtout pour les gens qui demeurent au sud du chemin de corps. Excusez. Alors, 5.4, second projet de règlement, P2-1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis et certificat afin de modifier la définition du sous-sol.
Considérant qu'un règlement concernant les permis et certificats est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'en modifier le contenu, considérant qu'un avis de motion a dû être donné à la séance tenue le 28 juillet 2020 que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation publique n'a donné lieu à aucune modification, en conséquence, il est résolu d'adopter le second projet de règlement P2-1300-3, modifiant le règlement 1300 de permis certificat afin de modifier la définition du sous-sol. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement deux jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui propose? qui l'a pu. Alors ici, il s'agit de modifier la définition du sous-sol, alors que l'ancien règlement, il parlait d'une partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée d'une hauteur libre d'au moins 2,1 mètres entre le plancher et le plafond et le plancher. Alors que maintenant, on dit que la partie d'un bâtiment d'une hauteur libre de 2,1 mètres minimum située sous le rez-de-chaussée du bâtiment et dont le plancher se retrouve à au moins 60 cm sous le niveau moyen du sol sur au moins 50 % de son périmètre, un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Alors, le point numéro 5.5 va être reporté à la séance du mois de septembre. Parce qu'il y avait une petite coquille que nous devons vérifier. Alors, 5.6, règlement 822-17, modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux descentes de bateaux.
Considérant que la ville procède à la construction des descentes à bateaux et qu'il y a lieu de contrôler le stationnement sur les terrains municipaux situés en bordure du lac et des montagnes près des descentes de bateaux existantes et à venir, considérant qu'un avis de motion a du moins été donné lors de la séance conseil municipal tenue le 28 juillet 2020, qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 822-17, modifiant le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux descentes de bateaux.
Alors, qui propose?
Jean-Yves Blot, je le propose.
Et qui l'appuie?
Jean-Yves Blot,
je l'appuie. Alors, il s'agit ici de modifier, parce que dans notre règlement, nous parlions de descente de bateau, mais nous ne parlions que de la 13e avenue. Alors maintenant, on parle de descente de bateau. Alors, la descente de la 37e avenue est inclue. La 13e va être inclue dans le règlement. Donc, on ne cible pas que la 13e avenue. On va passer au point 5.7, règlement 1300-2, afin de modifier le règlement de permis et certificat numéro 1300, afin de légiférer la garde de poules pondeuses.
Considérant qu'un règlement concernant les permis et certificats est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'en modifier le contenu, considérant qu'un avis de motion a du moins été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune notification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 28 juillet 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1300-2 afin de modifier le règlement de permis et certificat numéro 1300 afin de légiférer la garde de poules pondeuses. Il y a exemption de lecture parce que tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, avant de. Dans le troisième considérant, hein, c'est le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 22 juin 2020. Alors, qui le propose?
Jean-Yves Blot le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Yves
Blot
l'appuie. Je vous demanderai
pas. Alors,
Jean-Yves
Blot pour.
François Rabillard pour.
Alors, c'est adopté à la majorité. Nous allons passer au point 5.8, règlement 1400-54, modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter des dispositions quant aux constructions aux abords de la digue. Adoption.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a du moins été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire contenue dans le projet, considérant qu'à la suite de l'adoption du projet de règlement surmentionné, le Conseil a remplacé l'Assemblée privée de consultation prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite de 15 jours. Considérant que cette consultation écrite a donné lieu à des commentaires concernant les installations existantes, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-54, modifiant le règlement de zonage 1400, afin d'ajouter les dispositions quant aux constructions au moment de la ville quelques modifiées. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement deux jours avant la séance et qu'aucune notification n'a été réalisée au projet de règlement pour l'adoption.
Alors, qui propose?
Qui est le mot d'abord?
Qui l'appuie?
Qui l'appuie?
Alors, le règlement qui est adopté ce soir va permettre aux installations qui sont existantes de demeurer sur les lieux. Celles qui sont actuellement, oui, qui étaient là hier, vont pouvoir demeurer sur les lieux. Et il y a aussi aucune... Au départ, on avait mis... c'était la recommandation de certains ingénieurs. On avait mis 2 mètres... de l'infrastructure, il n'y avait rien. Alors, ça a été modifié à 1 mètre de l'infrastructure que les riverains vont pouvoir faire leurs installations. Alors, 5.9, règlement 1400-55, modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter une précision quant aux espaces de stationnement.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'une animation a dû être donnée à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune notification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 28 juillet 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-55, modifiant le règlement de zonage 1400 afin d'ajouter une précision quant aux espaces de stationnement. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance, et qu'aucune notification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie? Alors ici, il s'agit de modifier notre réglementation qui ne permettait pas de faire des stationnements contigus quand il s'agissait de condos. Alors, à chaque fois qu'il y avait 2 condos et qu'ils utilisaient la même entrée pour aller se stationner à leur bâtiment, ils devaient faire une demande de dérogation et ça leur était accordé. Alors maintenant, on a modifié la réglementation pour le permettre, puisqu'on l'acceptait à chaque demande. Alors, 5.10, règlement 1400-56, modifiant le règlement d'urbanisme 1400 afin de légiférer la garde de poules pondeuses.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu, par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, reconduit par le décret 2020-049. Considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune notification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 28 juillet 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, considérant qu'une observation de la RNC de Deux-Montagnes quant au champ d'application, considérant que la nouvelle disposition devrait se trouver au chapitre 4 du règlement plutôt qu'au chapitre 9. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-56, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de légiférer la garde de poules pondeuses telle que modifiée. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune notification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui le propose?
Jean Guillaume le propose.
Qui l'appuie?
Il a donné sa vue. Monsieur
Legault demande le vote.
Oui. Monsieur Legault demande le vote.
Alors.
Il a donné sa vue. Il a donné sa vue.
Jean-Hugo pour.
François Robillard pour.
Frédéric Lantier pour.
Alors, c'est adopté à la majorité. 5.11, règlement 1400-57, modifiant le règlement de zonage 1400 afin de modifier les dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel.
Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement urbaniste permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion du maire a été donné à la séance tenue le 22 juin 2020 et que le premier projet de règlement est adopté lors de cette même séance, considérant que dans les circonstances d'état d'urgence liées sanitaire liées à la COVID-19, la consultation publique a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, le tout tel que prévu par l'arrêté 2020-033-17-2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux reconduit par le décret 2020-049, considérant que cette consultation écrite n'a donné lieu à aucune modification, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 28 juillet 2020, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, en conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 1400-57, modifiant le règlement des zonages 1400, afin de modifier les dispositions du logement supplémentaire ou intergénérationnel. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune notification n'a été adressée au projet de règlement pour adoption.
Alors, qui propose? Qui l'appuie? Alors, il s'agit ici pour les logements intergénérationnels et les logements additionnels, surtout dans le sol, et c'est que nous exigeons une entrée distincte. Alors, 6.1, demande de dérogation mineure quant à la propriété située au 3049 chemin de Caen.
Considérant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre le frontage du dos à 8,90 m au lieu de 15 m selon la grille des spécifications M-505, puisque le lot est maintenant orienté vers la 23e avenue. Considérant que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-67, considérant qu'à la demande vise à modifier le bâtiment pour le 3049 chemin Gauca, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance ou à la propriété des immeubles de voisins. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3049 chemin Gauca.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
Madame la mairesse, François Robillard, j'ai une question. C'est la deuxième dérogation mineure concernant ce lot-là? Parce qu'il me semble qu'on a passé une zéro il y a un mois ou deux là, concernant ce lot-là, si je me trompe.
Je ne pourrais pas vous dire. Je crois que ça avait passé au CCU.
Des dérogations mineures parce qu'il démolit la maison, puis dans le fond, on va se retrouver avec trois lots là, au lieu d'un.
Non,
il y a
tout le secteur, il y a quatre lots, puis il y a une maison juste à côté, puis il y a juste le lot. Il y a peut-être un lot de terrain, bon chemin ou pas. La façade de la maison, elle sera avec trois lots.
OK. Parfait.
Alors, qui propose? Qui l'appuie? Oui,
il
6.2, demande de PIA quant à la propriété située au 1533e avenue.
Considérant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre le remplacement des fondations existantes en bloc par de nouvelles fondations en béton coulé à la rue du Gel. Le revêtement extérieur sera également remplacé par du vinyle et de la rue visée. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-74, considérant que la demande de PIA vise à permettre le remplacement des fondations du revêtement extérieur au 1533e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété saisie au 1533e rue.
Alors, qui le propose?
Jean-Yves Lourdes le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Yves
Lourdes l'appuie. 6.3, demande de PIA quant à la propriété située au 2411e avenue.
Concernant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre le remplacement des fondations existantes en bloc par une nouvelle fondation en béton coulé à la rue du GM. Le rez-de-chaussée est à maximum 6 pieds, 6 pouces du niveau de la rue. Concernant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-73, considérant qu'à la demande de PIA vise à permettre le remplacement des fondations existantes au 2411e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété saisie au 2411e avenue.
Alors, qui le propose?
Qui
l'appuie? 6.4, demande de PIA quant à la propriété située au 56-17e avenue.
Concernant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif de l'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre le remplacement de la structure de la toiture et le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. Une partie du revêtement des murs sera embellie et la toiture sera en acier. Concernant la recommandation positive du comité consultatif de l'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-72, considérant que la demande de PIA vise à permettre le remplacement de la structure soit du revêtement extérieur au 56-17e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA remporte les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété saisie au 56-17e avenue.
Donc, qui propose? Qui l'appuie? 6.5, demande de PIA quant à la propriété située au 82-19e avenue.
Concernant pendant du 4 août 2020, les membres du comité consultatif de l'année sont étudiés une demande de PIA qui vise à permettre le remplacement des fondations par de nouvelles fondations à la rue du GL ainsi que la rue d'une entrée extérieure menant sous sol. Le revêtement extérieur sera également remplacé suite aux travaux. Considérant que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-70, considérant que la demande de PIA vise à permettre le remplacement des fondations, l'agrandissement du bâtiment principal et le remplacement du revêtement extérieur 82-19e avenue, considérant que la demande de PIA est conforme au règlement municipal, considérant que la demande de PIA remporte les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété 6-4-22-19.
Alors, qui le propose?
Qui
l'appuie? 6.6, demande de PIA quant à la propriété située au 298 rue de la Tourbière.
Concernant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre l'ajout d'une pièce habitable au-dessus du garage existant qui est attenant au bâtiment principal. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-69, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 298 rue de la Tourbière, considérant que la demande de PIA est conforme au règlement municipal, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété 6 au 288 rue de la Tour Pierre.
Qui le propose? Qui l'appuie?
Jean-Yves
Lourdes. 6.7, demande de PIA quant à la propriété située au 36 rue du Bel-Air.
Considérant qu'en date du 4 août 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de PIA qui vise à permettre l'ajout d'une pièce habitable au-dessus du garage existant qui est attenant au bâtiment principal. Concernant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CC 2020-08-71, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'ajout d'une pièce habitable au 36 rue du Bel-Air, considérant que la demande de PIA est conforme au règlement municipal, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter les deux propositions de la demande de PIA pour la propriété saisie au 36 rue du Bernier.
Qu'il propose? Qu'il appuie?
Non, il avait
accepté. 6.8, demande de PIA quant à la propriété située au 3101 chemin d'Oka.
Concernant le mandat du 4 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme sont équipés d'une demande de PIA qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-08-68, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 3101 chemin d'Opère, considérant que la demande de PIA n'est pas conforme aux règlements municipaux, mais qu'elle a fait l'objet d'une vérification mineure, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété saisie au 3101 chemin d'Opère.
Alors, qui propose? Qui l'appuie?
Jean-Yves Lourdes l'appuie.
Alors, pour votre information, 3101 chemin d'Opère, c'est l'ancien restaurant La Petite École, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et ceux qui ne le savent pas, c'est le petit bâtiment qui est situé à côté où était l'école primaire Horizon du Lac à l'époque. La petite école, oui. 7.1, acquisition de terrain, digue 2019, autorisation de signature.
Concernant les événements du 27 avril 2019, concernant le décret 403-2019, concernant l'établissement du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents survenant avant le 31 mars 2021, concernant en vertu du programme d'aide financière, le propriétaire d'une résidence principale impossible à réparer ou à reconstruire peut céder le terrain sur lequel elle se trouve à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, considérant que certaines propriétés inondées sont déclarées pertes totales et qu'elles ont été démolies, considérant que les propriétaires de propriétés impossibles à réparer ou à reconstruire ont manifesté à la ville le désir de lui céder le terrain sur lequel ces propriétés se trouvent, et ce pour la somme nominale de 1 $. En conséquence, il est résolu de signer l'acte notarié de cession des terrains si après décrit pour la somme nominale de 1 $. Un immeuble connu désigné comme étant le lot numéro 1463978 du cadastre du Québec, circonscription française de Montagne, situé au 31 20e avenue, le lot numéro 1463020 du cadastre du Québec, situé au 82 29e avenue, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour le nom de la ville les actes de cession et tous les autres documents écrits au fin de la prise en résolution.
Alors, qui propose? Qui l'appuie?
Jean-Louis
l'appuie. 9.1, report du dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et du rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur pour l'année 2019.
Considérant que pour l'exercice financier s'étonnant le 31 décembre 2019, il faut consolider les rapports financiers des organismes contrôlés, considérant qu'avec les événements entourant l'état d'urgence sanitaire, nous n'avons pas terminé de consolider les rapports financiers, considérant qu'en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les services des villes, la mairesse doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant, et ce, lors d'une séance ordinaire tenue en juin. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a appliqué une tolérance considérant l'état d'urgence sanitaire, laquelle prendra fin le 31 août prochain. En conséquence, il est résolu de reporter le dépôt du rapport financier du 31 décembre 2019 et du rapport des auditeurs à une séance conseil municipal ultérieure, que le dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier de la ville et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2019 soit reporté au plus tard à la séance conseil municipal qui suivra le dépôt des rapports. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Qui le propose?
Qui le propose?
Qui l'appuie? 9.2, émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique à adjudication.
Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 678-2, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'application et de publication des résultats de titres d'emprunt émis au fin des financements municipaux, des soumissions pour la vente d'émissions d'obligations datées du 19 septembre 2020 au montant de 9 921 000. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'obligation désignée ci-dessus, Le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les crédits civils ou de l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Les résultats de soumission sont la compagnie Valeurs immobilières Banque Laurentienne Inc., prix 98,78,289, cours réel 1,35316%. Deuxième compagnie, Valeurs immobilières Desjardins, prix 98,356, cours réel 1,35374%. Troisième compagnie, Financière Banque Nationale, prix 98,555, cours réel 1,40467%. Considérant que le résultat du calcul des cours réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs immobilières Banque Laurentienne Inc. est la plus avantageuse, en conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligation montant de 9 921 000 de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soit adjugée à la firme Valeurs immobilières Banque Laurentienne Inc., que demande soit faite à ces derniers de mandater service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détenteur de billets, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que la mairesse et la trésorière soient autorisées à payer les billets visés par la présente émission, soit un billet par échéance.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
Madame la mairesse, François Robillard, il s'agit de faire des cadeaux d'enfants.
C'est pour la digue. 9.3, émission d'obligation, concordance.
Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 9 921 000 $ qui sera réalisé le 9 septembre 2020 et parti comme suit, règlement d'emprunt 678-2 pour un montant de 9 921 000 $ considérant qu'il y a eu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 678-2, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 septembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement, les 9 mars et le 9 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetées par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS-E et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier ou la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cet effet, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CD 15 Desjardins de Saint-Eustache de Montagne au 575 Boulevard Artis. Que les obligations soient signées par la MRS et la secrétaire, le secrétaire trésorier ou la trésorière. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, telle que permis par la loi, mandatée CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les avancements de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 678-2 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 9 septembre 2020. au lieu du même principe pour les amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le seul ou partie du seul dû sur l'emprunt.
Il propose.
Il le propose.
Qu'il appuie. Alors, c'est encore pour la dire. 10.1, regroupement des usagers de transport adaptés des Patriotes, reconnaissance de l'organisme.
Considérant la demande de reconnaissance d'organismes reçus du regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes, considérant que l'organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance des organismes, considérant que plusieurs Martelacoises et Martelacois utilisent le transport adapté et peuvent bénéficier de leurs services, considérant que la Ville encourage l'intégration de personnes handicapées de par son plan d'action à l'égard des personnes handicapées, en conséquence, il est résolu de reconnaître le regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes à titre d'organisme régional.
Qu'il propose.
Qu'il
appuie. 10.2. Carte accompagnement loisirs.
Considérant que le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2020 adopté au mois de mai dernier comportait l'action d'adhérer au programme de carte d'accompagnement local de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, considérant que cette carte apporte la gratuité d'entrée à l'accompagnateur de personnes en situation de handicap aux activités de la ville, et en conséquence, il est résolu d'adhérer au programme de la carte accompagnement loisirs et d'autoriser la directrice des loisirs, des arts et de la vie communautaire à remplir et signer tous les documents relatifs à la carte d'accompagnement loisirs, dont le protocole d'entente concernant la carte accompagnement loisirs.
Qu'il propose?
Oui, je le propose.
Qu'il appuie? Oui,
je
le passer au point 11.1, proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2020.
Considérant que les bibliothèques publiques du Québec subissent afin de promouvoir et faire connaître les services qu'elles offrent, considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont un rôle majeur dans le développement de la littérature des Québécois et l'évolution de la société, considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont joué un rôle essentiel d'éducation et d'accompagnement durant la crise de la COVID-19, considérant l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès de la population, soit l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture, considérant que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à l'information et à la connaissance, considérant que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens, en conséquence, il est résolu de proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020 semaine des bibliothèques publiques dans notre municipalité.
Qu'il propose?
Moi, je le propose.
Qu'il appuie?
Il appuie.
13.1, construction des descentes de bateaux de la 13e avenue, 29e avenue et 37e avenue. Le contrat SP 2020-0212 octroie de contrat.
Considérant l'appel d'offres public SP 2020-012 sur SEA, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 11 août 2020 installées comme suit, entreprise CSM Technologies, montant de la soumission avant taxe 1 969 647,55. L'entreprise Réaction, montant de la soumission avant taxe 2 010 460. L'entreprise Cusson Morin Construction, montant de la soumission avant taxe 2 092 589,84. Entreprise Interchantier Inc., montant de la soumission 2 896 870,85. L'entreprise Loisel Inc., montant de la soumission 2 899 180,87. Entreprise Duroquin Construction, montant de la soumission 3 158 698,20. L'entreprise LIXM Entrepreneur Général, montant de la soumission 3 400 000. L'entreprise MVC Océan, montant de la soumission 3 659 625 $. Entreprise Construction Polaris CMM Inc., montant de la soumission 3 780 000 $. Considérant la recommandation de M. Pierre Scanlan, directeur général, d'octroyer le contrat à l'entreprise TSM Technologies et ce, conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat SP-2020-12 relativement à la construction des descentes de bateaux de la 13e, de la 29e et de la 37e avenue à l'entreprise TSM Technologies, le tout pour un montant de 1 969 647,55 plus toute taxe applicable.
Qu'il propose?
Qu'il
appuie? 13.2, naturalisation des rives et du littoral suite aux travaux de réfection de la digue INV 2020-015.
Concernant l'appel d'offres sur invitation INV-2020-015 auprès de 3 entreprises, concernant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui a lieu le 25 août 2020, qui s'est lié comme suit. Entreprise Nature au Lac, montant de la soumission avant taxe, 86 816,40. Entreprise Naturive, montant de la soumission, 173 640,87. Et l'entreprise Obie Environnement n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Carl Gabrion, ingénieur, d'octroyer le contrat à l'entreprise Nature au Lac, et ce conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, les mises à lieu, d'octroyer le contrat IND-2020-015 relatif à la naturalisation des rives et du littoral suite aux travaux de protection de la digue à l'entreprise Nature au Lac au montant de 86 816,40 plus toute taxe applicable.
Qui le propose?
Qui le propose?
Qui l'appuie?
Madame Paulus, François Robillard, question. Il y a quand même une bonne différence là, entre les deux. Est-ce qu'on juge que. On a jugé que la compagnie qui a remporté n'a pas fait d'erreur, puis c'est vraiment sa soumission, c'est le bon prix? Ou?
Mais là, ils ont quand même ouvert les soumissions, ils ont regardé, et ça a été fait en bonne et due forme, et ils répondaient aux demandes indiquées dans les documents qu'on leur avait transmis.
OK. Parce que donc, c'est le double, puis une troisième,
il n'a pas soumissionné.
Ça ne donne pas de comparable.
Oui, mais le travail a été fait par le personnel. Ça a été fait? Je m'excuse. Alors, 13.3, certificat de non-objection, prolongement de la prolongement 33e avenue.
Considérant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement en mars 2018, considérant que le promoteur souhaite développer un projet immobilier sur la 33e avenue, considérant que le projet immobilier prévoit l'installation de nouvelles conduites d'aqueduc et d'égouts et de fondations et qu'il est, par conséquent, assujetti à l'article 32 de la LQE, considérant que le promoteur, Construction Beauvin Inc., doit à cet effet obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que la firme d'ingénierie VSA Group Conseil a été mandatée par le promoteur pour transmettre cette demande d'autorisation, considérant que la demande d'autorisation complétée par la firme d'ingénierie VSA Group Conseil doit contenir un certificat attestant de la non-objection de la ville quant à la réalisation du projet, considérant l'acceptation des plans pour demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques par la ville. Considérant que ce certificat doit être signé et émis par le greffier de la ville, en conséquence, il est résolu d'autoriser la greffière à signer un certificat de non-objection à la délivrance de l'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE pour le projet immobilier sur la 33e avenue.
Alors, qui le propose? Qui l'appuie?
Madame la mairesse, François Rodial, question. Est-ce qu'on est sûr et certain que ce terrain-là a été décontaminé en bonne forme?
Le travail a été fait et c'est suivi par notre service d'urbanisme.
On a des documents qui nous prouvent que le terrain est bel et bien décontaminé.
L'obligation de décontaminer a été demandée et c'est suivi par le service d'urbanisme. Okay. 14.1, imperméabilisation. Renforcement et rehaussement de la digue en remblai, SP 2019-017, dépassement de coût, autorisation.
Concernant que la ville de Saint-Denis-sur-Lac a pris le contrat SP 2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Drouquin Construction par sa résolution 2019-08-177, considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Sûreté Construction d'un montant de 900 294,82 plus toute taxe applicable pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue en anglais, vu la prolongation des travaux.
Qu'il propose.
Qu'il propose.
Qu'il appuie. Alors ici, il s'agit de coûts reliés à l'excavation et à la disposition des sols contaminés qui s'étaient accumulés dans le canal d'amener d'eau à la station de pompage pluviale de la 30e avenue. Un deuxième avenant qui est lui aussi important, il est relié à des travaux de pavage à de multiples emplacements suite à l'installation de conduites pluviales permettant un point de sortie à l'eau provenant des drains installés au pied de la digue. Et il s'agit aussi de coûts reliés à la mise en place de pierres 100 à 200 mm entre les pales planches et le riprap afin de créer une jonction sécuritaire. Alors, nous allons passer à 14.2, construction d'une digue en remplis entre la 9e avenue et la rue Pomerol, SP-2019-026, dépassement de coût, autorisation.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-Lèvre qui a attribué le contrat SP-2019-026 pour la construction d'une digue en remplis entre la 9e avenue et la rue Pomerol, considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coût de plus de 25 000 $ doit être approuvé par la résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise Loisel Inc. d'un montant de 175 071,82 $ plus toute taxe applicable pour la construction d'une digue en remblai entre la 9e avenue et la rue Pomerol, vu la prolongation des travaux.
Qui propose?
Qui
l'appuie? Alors, ce sont des coûts qui sont reliés à la construction d'une conduite pluviale à la base de la digue, à certains emplacements le long de la rue Matisse, afin d'assurer le drainage des eaux provenant des drains français et des drains de toit plat qui drainaient directement au lac avant la construction de la digue. Alors, nous allons passer au point numéro 15, les dépôts.
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois de juillet 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois de juillet 2020. Dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires pour le mois d'août 2020. Dépôt du rapport du directeur général concernant la signature des contrats pour le mois de juillet 2020.
Alors, nous allons passer à la période de questions. Alors, avant même la période de questions, je vais d'abord répondre aux questions qui ont été posées par M. Robillard lors de la dernière séance. Alors, M. Robillard demandait s'il était possible de modifier le contrat de clôture pour faire installer des ancrages afin de permettre aux riverains d'installer des escaliers. Alors, la réponse est non, ce ne sera pas possible puisque ce genre de travaux ne fait pas partie des compétences de l'entrepreneur qui installera les clôtures. Et pour pouvoir installer des ancrages, il faudrait tout d'abord couler une base de béton, ce qui ne peut se faire ni sur le dessus de la digue, ni dans l'enrochement. M. Robillard a aussi demandé si j'avais communiqué avec la commission scolaire concernant les besoins d'école sur notre territoire. Alors, j'ai reçu un courriel le 6 juillet dernier de la directrice de la commission scolaire, comme je le mentionnais, qui incluait des demandes d'ajout d'espace dans le plan québécois des infrastructures 2021-2031, ainsi que la demande d'ajout d'espace pour le déploiement de maternelle 4 ans. La CSSMI demande au gouvernement la construction d'une école primaire d'une capacité d'accueil de 7 groupes au préscolaire et de 18 groupes au primaire pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La commission scolaire demande aussi l'agrandissement d'un gymnase à l'école des Lucioles et l'agrandissement de 4 locaux à l'école primaire Horizon du Lac pour le déploiement de maternelle 4 ans. Monsieur Robillard demandait aussi si nous avions une solution concernant les pales planches qui sont à découvert sur la rue Carole et une petite partie sur la rue Pomerol. Alors, actuellement, le service d'urbanisme et les travaux publics sont à travailler sur différents projets afin de masquer les pales planches en question. Alors, ils vont nous revenir avec des propositions sous peu. M. Robillard aimerait aussi savoir si nous allons faire une consultation publique pour le projet de piscine. Alors, il n'y aura pas de consultation publique puisque le projet est beaucoup trop avancé, mais nous allons faire une présentation du projet à la population lorsque le projet sera prêt à être présenté. On nous demande, M. Robillard demande aussi si nous aurions le rapport sur l'étude, quand est-ce qu'on aurait le rapport sur l'étude environnementale du terrain en face du Tim Hortons sur le boulevard des Promenades et ici face à l'hôtel de ville. Bon, le rapport sera prêt à la fin septembre, début octobre. Et il y avait une question quant aux consultations publiques pour les règlements. Alors, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous permet de procéder par écrit et la majorité des villes ne font pas de consultation pour les règlements publiquement présentement. Alors, on se fie sur les recommandations du ministère des Affaires municipales.
Il y avait aussi une autre question.
Attendez, M. Robillard, je vais tout d'abord terminer. Après ça, ce sera la période de questions. Maintenant, nous avons reçu des questions par écrit. Alors, il y a Mme Sylvie Clermont, du 2978 rue Deschênes.
Mme Clermont demande où nous en sommes rendus avec l'analyse environnementale du voisin situé à l'intersection du boulevard des Promenades et du chemin d'Oka.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, le contrat a été octroyé. La firme à laquelle le contrat a été octroyé, c'est la firme Rabel, et ils devraient nous déposer un rapport en fin septembre, début octobre.
Mme Clermont demande plus de détails sur les travaux qui seront effectués en rapport avec la naturalisation des rives et du littoral suite à la construction de la digue.
Les travaux prévus sont l'ensemencement de zones affectées par les travaux afin de restaurer une composante végétale à la base de la digue avec des végétaux adaptés au milieu. À certains endroits, il y aura de la plantation d'arbustes et d'arbres. Ces emplacements sont principalement dans le parc de la Frayère.
Mme Clermont veut savoir si les travaux ont été planifiés afin que la faune riveraine, telle que les canards, les tortues, puisse retrouver assez leur habitat naturel.
Oui, nous avons un biologiste qui travaille présentement afin de maximiser la restauration du littoral par la végétalisation dans les zones propices, le tout sous la supervision du ministère des Pêches et Océans.
Mme Clermont veut savoir si les endroits qui donnent accès à la digue, tels qu'entre la 19e et la 20e avenue, vont être à nouveau accessibles et comment ils seront aménagés.
Oui, ça va de nouveau être accessible, mais nous ne sommes actuellement pas en mesure de vous dire comment ils seront aménagés et quand. Nous allons revoir chacun des emplacements et évaluer ce qui pourra être mis en place pour redonner un accès au littoral aux citoyens.
Question de M. Olivier Lebotte, 3143 rue Charrette. M. Lebotte adresse un problème de vitesse sur la 34e avenue entre le chemin d'Oka et la rue Louise et demande à la ville de trouver des solutions.
Alors, la demande de monsieur va être acheminée aux membres du conseil et aux membres du comité de circulation qui analyseront la situation afin de trouver des solutions et faire des recommandations au conseil. On est conscient qu'avec la descente de bateau de la 37e avenue, il y a beaucoup plus de gens qui circulent entre le chemin d'Oka et évidemment la marina et qui empruntent la 34e parce qu'elle est très large. Alors, on comprend cette problématique-là. Alors, nous allons passer à la période de questions pour les citoyens. Alors, on va vous demander de vous avancer, mais un à la fois, et de garder votre masque. On a fait des tests et ça devrait bien fonctionner. Vous vous identifiez, vous donnez votre nom et votre adresse de résidence.
Bonjour tout le monde, Madame la mairesse. Madame la conseillère, messieurs les conseillers, merci pour votre travail, premièrement. J'ai trois sujets dont j'aimerais poser des questions. Premièrement, par rapport à l'accès au lac, vous en avez déjà parlé quand même ce soir, mais j'ai quand même le goût de demander, chez moi, sur la 40e avenue, les travaux ont cessé depuis un bon bout de temps. Quand allons-nous avoir accès au lac pour pouvoir se ressourcer et contempler le lac que nous avons? Quelles sont les installations qui sont prévues d'être aménagées dans ce coin-là? J'aimerais aussi savoir quels sont les travaux qui ont été prévus par rapport pour garantir la quiétude des propriétaires riverains. Je ne sais pas si ce sont des clôtures pour chaque terrain ou est-ce que les propriétaires ont été consultés? Est-ce que ça serait aussi une autre possibilité, des clôtures de part et d'autre pour chacune des rues?
Bon, alors, il va y avoir des clôtures entre chaque riverain et ce qui est la continuation de la rue, il va y avoir, pour que les gens puissent y accéder, comme ils le faisaient à l'époque, il va y avoir deux clôtures à ces endroits-là aussi pour que les citoyens puissent y aller.
Donc, pas de clôture fermée pour que les gens ne puissent pas se rendre sur la digue?
Non, les gens vont pouvoir aller voir le lac. Là, ceux
parfait.
Qui ont décidé,
merci. Autre chose aussi, je me demandais par rapport aux installations de la plage Roger, est-ce que c'est un terrain de la ville ou pas? Je n'étais pas au courant. Donc, est-ce que ces installations-là vont se poursuivre l'an prochain? Quand vous avez parlé de la 13e, de la 29, de la 37e avenue, donc je comprends qu'il y a des installations permanentes qui vont valoriser le bord du lac et
oui.
permettre aux gens de...
Ben, on va refaire les descentes à bateau de la 13e avenue, de la 29e, de la 37. Celle non loin de chez vous ne sera plus une descente parce que nous aurions dû la mettre trop à angle et ça allait beaucoup trop sur les terrains des citoyens. Alors, on a pris la décision de ne plus faire une descente à cet endroit-là, une descente pour les véhicules, là, pour
la 43e.
Oui, de toute façon, honnêtement, l'eau du lac est beaucoup trop, c'est trop bas à cet endroit-là pour descendre avec les bateaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une descente pour que la population puisse y descendre avec un canot. Mais ça va être encore public à cet endroit-là.
OK, merci. Maintenant, des questions concernant la plage. J'ai trouvé qu'il y avait eu des améliorations cette année à la plage, tant pour la gestion du personnel que pour l'environnement de la plage. Je crois que le niveau de l'eau était très, très bas. Je me demandais s'il y a des travaux qui ont été prévus pour augmenter la plage, non pas la plage sèche, mais la plage dans l'eau. Et l'autre chose aussi, s'il y a des mécanismes qui seraient peut-être possibles qu'on pense, parce que la fin de semaine, c'est difficile pour les résidents d'y avoir accès. Il y a beaucoup plus de non-résidents que de résidents qui vont à la plage à certains moments de la semaine ou de la fin de semaine. Donc, je vais voir s'il y a quelque chose qui pourrait être... réfléchis à ce niveau-là aussi.
On a déjà commencé à regarder. On est conscient que la priorité va aux citoyens de la ville. Mm-hmm. Alors, les coûts ne sont pas très élevés pour les gens qui sont de l'extérieur. Alors, il y a de fortes chances que l'année prochaine, le tarif soit augmenté pour les gens de l'extérieur. Parce qu'il faut être conscient que le parc d'Oka, quand il ferme ou quand ils refusent l'entrée aux gens, ils nous les envoient à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Okay. Alors, on veut quand même donner la priorité aux citoyens de Sainte-Marthe.
OK, merci. Ma dernière question par rapport aux dérogations mineures, je ne sais pas si le 3049 Chemin d'Oka fait partie de la ZIS, mais ma question était, est-ce qu'il y a eu des dérogations mineures qui ont été octroyées dans la ZIS depuis le temps de la COVID, pour des maisons neuves, pour des rénovations majeures. Et si la Ville doit toujours appliquer le fameux règlement de 1985 qui n'avait jamais été vraiment appliqué avant.
Alors, quand vous parlez du règlement de 1985, vous parlez de quoi?
Du règlement de 1985 qui dit qu'on ne peut pas avoir de dérogation mineure. Peut-être le directeur peut peut-être m'aider. Pas de...
OK. Actuellement, parce qu'on est dans la ZIS, on ne peut pas donner de dérogation mineure.
Okay.
OK. Alors, comme vous avez pu voir, on travaille chaque propriété pour tenter de régler la problématique qu'il y a. Et jusqu'à maintenant, on réussit quand même à, sans passer par une dérogation mineure, à régler le problème sur chacune des propriétés.
Donc, c'est du cas par cas.
C'est du cas par cas que les services d'urbanisme regardent.
C'est pas ça qui nous avait été expliqué lorsqu'on a déposé une demande de dérogation mineure pour notre maison. Ça nous avait dit qu'on n'avait pas le droit d'octroyer de dérogation mineure à cause qu'on était une ZIS si c'est un vieux règlement.
OK. Par contre, on a travaillé avec vous pour régler votre problématique.
Oui, on a fait une
rénovation. C'est ce qu'on fait avec tout le monde. C'est ce qu'on fait avec tout le monde. On tente de régler la problématique.
Madame la mairesse, est-ce que c'est parce qu'un cas par cas, quand c'est une marge latérale qui est non conforme, on a beau travailler cas par cas, mais on ne le réglera pas. C'est sûr et certain, là, ce problème-là. Là. C'est de démolir la fondation, puis c'est de reconstruire en eux.
Non, M. Rabian, vous lirez les résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui. Vous allez voir qu'on l'a fait et qu'on a réussi à le faire.
En tout cas, pour terminer, je suis vraiment choquée de voir que c'est du cas par cas quand on s'est fait dire que c'était comme ça, c'était un règlement qu'on devait appliquer et que même si on refaisait une maison sur le même solage, au même endroit, on ne pouvait pas faire une construction neuve, donc on était obligé de faire une rénovation majeure sur des murs de 1956, et que là, avec du cas par cas, on peut avoir une dérogation, oui, des fois non, je suis vraiment
étonnée. On n'a pas de dérogation, on n'accorde aucune dérogation parce qu'on ne peut pas accorder de dérogation. Moi, je vais vous demander à la fin de l'assemblée, venez nous voir, le directeur et moi, et on va vous expliquer exactement ce qu'il y en est là. Quant à votre propriété.
Et par rapport au 3049 chemin d'Oka, c'est parce que c'est pas dans la ZIS?
Il n'est pas dans la ZIS, non.
OK. Merci.
Dans votre commerce parce qu'il y a une résolution de SOFU qui interdit les feux à ciel ouvert et les feux d'artifice. Il m'a dit, ben c'est la SOFU qui aimait ça, mais moi, je n'ai pas l'interdiction de vendre des feux d'artifice. Je me suis un peu apporté parce qu'il lui a dit, moi, j'ai trois adresses à Saint-Marc qui ont été sinistrées par un sinistre l'année passée. Là, vous êtes en train de me dire que je vais perdre ma dernière résidence à Montréal-Est parce que quelqu'un va partir un feu de forêt. Maintenant,
ce que je dois vous rajouter, c'est que c'est le service d'incendie qui nous a demandé de modifier parce qu'il n'avait aucun pouvoir si nous, on ne le mettait pas dans notre règlement. Okay?
Je suis pas contre ça, je suis en faveur de ça. Par contre, on a aussi un règlement ici à Saint-Anne-sur-le-Lac qui interdit en tout temps d'allumer des feux d'artifice.
Oui.
Je suis intervenu souvent auprès du service d'incendie parce que les gens venaient faire sauter les feux d'artifice à côté de chez moi. Puis aussi, vous vous souvenez, en 2010, à Terrebonne, il y a 7 résidences qui ont brûlé parce qu'un résident a fait allumer un feu d'artifice. Alors, rentrez dans l'entretoit de la maison du voisin, il y a 7 résidences qui ont brûlé. Maintenant, si ici à Sainte-Marthe, on a une règlement qui interdit d'allumer les feux d'artifice, pourquoi on en va dans les commerces? Est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il vous plaît, adopter un règlement pour interdire la vente de feux d'artifice aussi sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-Lac?
Ça, je vais faire.
Ça, ça.
Je vais faire vérifier le côté légal de ça, mais on peut le regarder. Oui.
C'est comme les sacs de papier, vous interdisez les sacs de oui. plastique, c'est-à-dire, donc on pourrait aussi interdire la vente.
Oui, c'est bon, on va vérifier. Puis on...
D'accord. Pour la piscine, il n'y aura pas de consultation.
Pas pour quant au plan, mais on va faire une. On va soumettre le projet à la population.
D'accord. Pour la pelouse au bord du lac. Ben, la pelouse, en fait.
La mauvaise herbe.
Le mur de mauvaise herbe, oui, là. Là, il était supposé avoir des travaux cette semaine. J'arrive chez moi aujourd'hui. Il n'y a aucun travail.
OK. On les suit de très près. On leur a demandé de couper ou d'enlever ce qu'ils avaient mis, de recommencer le travail. Et à défaut de le faire, on a dit que nous, on le ferait. Alors, ils nous ont dit, gentiment, ne vous immiscez pas dans notre travail, nous allons le faire. Alors, ils ont une obligation de résultat. Alors, on va attendre pour voir le résultat final. Mais ils savent très bien qu'ils doivent... ça doit être du gazon et non pas ce qu'on a.
Parce que présentement, il y a de 10 à 15 % du...
C'est de l'herbe à pousser.
Oui. Là, c'est une bombe atomique pour les allergènes. Quand ils vont faucher ça, là, moi, je ne voudrais pas être allergique. Ça va être une bombe bactériologique pour tous les gens qui font des allergies.
Oui, j'en fais.
Bon.
J'en sais quelque chose.
Maintenant, pour la restauration du littoral.
Oui.
Vous savez que les tortues ne pondent chez moi.
Pardon?
Vous savez que les tortues
oui.
venaient pondre chez oui. moi. À chaque année, je faisais la naissance des tortues.
Oui.
Il y a une des plages à tortues. J'ai été énormément endommagé. J'ai fait des communications avec les gens à ce sujet-là. Mm-hmm. J'aimerais savoir, parce que là, vous me dites qu'il y a des gens de rappel, je crois que son nom, c'était Bernard, des biologistes. Là. En fait.
On a les gens qui travaillent.
Est-ce qu'il faut que je donne des copies dans mes gags ou que j'envoie des courriels ou que quelqu'un va venir me rencontrer pour savoir qu'est-ce qui peut être fait autour de chez moi parce que j'y tiens à mes tortues. Il y a des gens qui font des voyages au Guatemala pour aller faire la naissance des tortues. Moi, je fais ça dans mon jardin. C'est un privilège que j'avais, que je n'ai plus. Est-ce que le littoral doit être restauré en fonction de la fraie des tortues, de la ponte des tortues? Parce qu'ils naissent directement dans mon jardin chez moi pour pondre. Maintenant, avec le mur d'escalade qu'on leur donne, c'est sûr qu'ils n'auront plus jamais accès chez moi.
On va regarder avec...
Ça, c'est la même préoccupation que j'avais pour les talents branchis à la frayeur. D'ailleurs, moi et M. Scannat, on travaille ensemble là-dessus. On va mettre le projet à terme cet automne.
On va demander aux spécialistes de regarder pour voir
si on peut communiquer avec moi. Je pense que je suis rejoignable en tout temps. Puis je suis disponible quand on veut pour venir chez moi pour examiner la situation.
Merci. Là, je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller chercher un moment pour venir? Parce que chaque citoyen qui vient touche au micro, OK? Alors, j'aimerais savoir... Monsieur Dallin, oui, je pense qu'il y en a en sortant ici. Non, mais pour que les gens après puissent pas me prendre sur elle, parce que je ne voudrais pas qu'on ait une...
Je n'ai pas mon masque.
Ben oui, madame a touché au micro, vous avez touché au micro, madame Meloche a touché au micro. Ah. Je vous le dis, tout le monde a touché au micro. Mais c'est surtout pour les mains. Que les gens qui ont touché au micro, là, s'il vous plaît, passez le courriel, là. OK? Vous mettez-le sur une chaise qui est vide, là. Mais surtout en haut, là. Parce qu'ils ont vraiment touché. OK. Merci.
Bonsoir. Julie Pelletier, Grande-Désirée.
Votre adresse, madame?
Grande-Désirée.
Votre numéro de porte?
Ah, 228, excusez-moi.
Oui.
Donc, en fait, depuis plusieurs mois, je m'informe sur le dossier de l'eau potable. Puis, c'est un dossier qui m'inquiète quand même à voir l'ampleur que ça prend, entre autres, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, j'ai fait une demande d'accès à l'information le 8 juillet. Je n'ai pas encore reçu les informations que j'ai demandées. Donc, en fait, on a un délai de 20 jours pour répondre, puis je n'ai pas encore reçu.
Alors, on avait deux choix.
Oui.
C'était soit de vous dire que ce que vous demandiez était trop volumineux et qu'on ne vous le donnait pas, ou bien qu'on prenait tous les... parce qu'il y a 800 pages, un minimum de 800 pages, et on doit élaguer. Alors, on doit enlever tout ce qui se rapporte à une personne, ou il faut vraiment faire du... il faut barrer des choses dessus. Alors, c'est évident que on n'est pas la ville de Montréal, on n'est pas la ville de Laval, on n'avait pas le personnel pour le faire. Alors, on a choisi de vous les faire, laisser consulter, mais il faut finir l'élagage, malheureusement.
D'accord. Okay. Est-ce que vous êtes capable de me dire dans combien de temps environ l'élagage pourrait être fait? Parce que là, ça va faire environ 2 mois que la demande a été faite, je n'ai pas pu avoir accès aux documents encore.
OK. Je sais qu'on vous a envoyé une correspondance dans laquelle on disait que les documents sont maintenant en ligne pour... Parce qu'au départ, on vous avait demandé si vous vouliez pas, ou en tout cas, il me semble, là, parce que je ne le suis pas de très près, là, le dossier, mais on vous avait demandé, et vous aviez demandé les tests pour les puits. Là, maintenant, j'ai compris que vous voulez tous les tests. Alors, oui, on va les élaguer, vous allez avoir accès, on n'a pas de problème à vous les laisser voir, puis la population qui veut les voir. Et ils vont être disponibles à l'hôtel de ville pour consultation, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, il y a l'élagage à terminer. Alors, je vais juste vous demander d'ici combien de temps ça pourrait être disponible.
Là, avec les vacances, je vais essayer de faire mon possible, mais d'après moi, ça prend encore quelques semaines.
D'accord. J'attends ça impatiemment pour être capable de pouvoir analyser finalement les dossiers, puis voir ce qui a été fait par rapport à l'eau potable. Donc, par rapport à tout ça, vu que je m'inquiétais par rapport au dossier de l'eau potable, les informations n'étaient pas encore disponibles. Moi, j'ai fait l'enquête, dans le fond, une analyse statistique en enquêtant sur plus de 360 maisons, 360 résidences à Saint-Marc, ce qui nous fait des analyses statistiques fiables par rapport à la quantité de résidents que nous avons à Saint-Marc. À savoir, finalement, c'était quoi le degré de problématique d'eau? Est-ce que vous savez quel pourcentage de résidents ici ont des problématiques à Saint-Marc par rapport à l'eau potable?
Le pourcentage, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sporadique dans différents secteurs et c'est pas mal tous les secteurs qui sont touchés.
Effectivement. Mais dans le fond, moi, j'ai fait des photocopies de la carte que j'ai faite. Ça se base sur plusieurs critères que les citoyens devaient classifier leur coloration d'eau potable. Puis, j'ai mis des picots. Donc, j'ai 363 résultats que je vous remets sur la carte. Donc, vous allez pouvoir regarder dans quel secteur c'est le plus problématique. Je suis disponible si jamais quelqu'un qui veut me contacter pour pouvoir avoir les données de ces citoyens-là. J'ai tout ça informatisé. Donc, on voit vraiment que certains secteurs sont plus problématiques que d'autres. Puis, que c'est quand même assez bien réparti, somme toute. Donc, je vais être disponible pour vous en donner. J'ai 10 copies.
OK. Je vais vous demander de les déposer ici.
fait et on va les distribuer au.
Donc, pour faire suite, en fait, au dossier de l'eau potable, compte tenu de ces résultats-là, j'avais quelques questions par rapport au manganèse à vous poser.
Oui.
En fait, en suivant les dossiers, ce qu'on se rend compte, c'est que le décollement de manganèse dans les conduites, c'est ce que vous nous dites, qui fait colorer l'eau potable dépendant de la demande. Donc, il y a une plus grand débit dans les conduites, ce qui fait que la coloration est plus élevée. Donc, vu qu'on ne connaît pas le taux de manganèse au revenu des citoyens, est-ce que vous pouvez nous dire si le taux de manganèse est plus élevé au revenu à l'analyse de l'eau?
Moi, j'ai ici présent le directeur des travaux publics, M. Kevin Pinchot. Et il va vous, parce qu'il travaille depuis son embauche, il travaille jour et nuit sur le dossier de l'eau potable. Alors, il va vous répondre au meilleur de sa connaissance quant au problème de manganèse. Parce que, oui, on sait qu'il y a un problème de manganèse, on sait que c'est traité à l'usine. Okay? Et on sait qu'on a un problème de dureté et c'est traité à l'usine. Par contre, je vais laisser M. Pinchot vous répondre.
Je ne sais pas s'il faut que je m'approche au micro ou juste à voir où ça fait.
Bon, moi, parce que c'est enregistré et qu'il y a de la population, je vais juste vous demander de vous approcher ici. Moi, je vais m'éloigner.
Ça va être une première pour moi de répondre à ce genre de questions-là devant les gens. Donc, peut-être avec le sujet, je vais juste reposer les questions parce que ça, je vais les répondre au plus grand nombre.
Mais certainement, je peux le préciser. En fait, on dit que le taux de manganèse, on le connaît à peu près traitement. Okay? Donc, le taux de manganèse, vous l'avez affiché. Là, on l'a vu aussi qui était la moyenne supérieure, la moyenne inférieure aussi. Par contre, on ne connaît pas le taux de manganèse au robinet des citoyens. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous êtes capable de nous dire si le taux de manganèse au robinet des citoyens est le même que le taux de manganèse après le traitement à l'usine?
En fait, les données qui ont été affichées, les statistiques sur lesquelles qui ont été affichées dans le rapport aux questions, c'est les robinets qui sont dans la ville. On connaît en plus les résultats après traitement. Mais sauf que ceux qu'on a donnés, c'était ceux qui étaient dans la ville.
Oui, mais je n'ai pas vu de résultats au robinet des citoyens, j'ai vu des résultats après traitement, seulement à l'usine.
OK, mais ça, c'est les résultats critiqués qu'il y avait sur le site, puis c'était...
En fait, sur le site, on voit les résultats après traitement à l'usine. Les taux après traitement à l'usine, je peux vous les donner si vous voulez, je les ai. Donc, en moyenne, donc on a de 0,065 millième de milligramme, dans le fond, par litre d'eau, avec un écart type de 29 millième de milligramme par litre. Donc, on a un écart type de 29 millièmes de milligrammes, ce qui nous fait qu'on peut avoir jusqu'à 94 millièmes de milligrammes par litre en moyenne comme supérieur. Donc, c'est quand même un taux qui est assez élevé après le traitement. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le taux au robinet des soins.
Les statistiques que vous venez de nommer, c'est les statistiques que j'ai fournies à partir des données qui ont été prises dans les robinets. C'est écrit après le traitement. C'est peut-être juste, j'ai pas vu le niveau de précision de mentionner, de savoir la différence à ce moment où j'ai fourni les réponses, à dire qu'il faut revenir versus après traitement. Je suis désolé si ça a été interprété de cette façon-là, mais les tests ont été pris au revenir. En plus de ces tests-là, j'ai des tests qui sont pris après traitement. Ceux-là, je ne les ai pas mentionnés.
D'accord. Donc, ça, ces tests-là, quand moi, je vais avoir, dans le fond, les analyses-là, pour le demande d'accès à l'information, je vais trouver d'autres résultats qui correspondent au traitement. À l'usine, puis ce résultat-là, je ne verrai pas parce que ça va être au revenu des citoyens, c'est ça?
Ceux qui sont au revenu dans ces revenus-là, c'est des tests qui sont non accrédités, donc ce n'est pas ceux qui vont venir dans les annexes, comme vous avez vu sur le site internet. Des tests qui sont faits par les personnes qui sont à l'usine pour pas
comprendre. OK, je m'excuse, mais pour moi, ce n'est pas tant clair. Quand tu parles de tests au robinet, c'est des robinets de citoyens dans leur maison.
C'est des adresses qui ont été sélectionnées. Il y a des tests qui sont pris dans le centre du réseau, des tests qui sont pris à l'extrémité du réseau. Il y a l'exemple de Super 6, un endroit qui est pris, garage municipal. Il y a des endroits stratégiques, je n'ai pas regardé toutes les adresses, mais les personnes vont chercher dans un endroit qui n'est pas nécessairement à la même place tout le temps. Mais dans le centre du réseau, à l'extrémité du réseau.
OK. Donc, si j'y vais, en fond, avec ma prochaine question, vous avez mis en ligne un numéro de téléphone, puis aussi un formulaire à remplir pour les citoyens. Moi, j'avais demandé aux citoyens de m'informer quand ils faisaient une demande comme ça en ligne, ou je leur avais dit appeler aussi pour vous signifier. Puis j'ai plusieurs citoyens, donc tantôt, on a nommé la quantité que vous avez reçue d'informations. J'ai plus de la moitié de ces citoyens-là qui m'ont informé que, en fait, leur demande avait été refusée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi leur demande a été refusée?
En fait, c'est l'échantillonnage qui est pris. La situation qu'on vit actuellement avec le manganèse, on comprend le processus, puis c'est de l'oxydation qu'on vit dans le réseau.
Oui.
C'est un peu qu'est-ce que c'était de faire. C'est des minéraux inertes. Donc, il n'y a pas de micro-organismes associés à ça. Donc, quand on fait des tests, on peut même en faire des tonnes pour voir qu'est-ce qui est revenu. Puis une fois que j'ai des tests qui sortent, qui me donnent des instruments, c'est-à-dire des données qu'on va pouvoir donner à la femme qui va faire l'expertise. Après ça, c'est, il n'y a pas une utilité à faire au prix des tests, de faire un test par citoyen. C'est pour, qu'est-ce que l'information supplémentaire va amener au dossier versus le, on pourrait dire, le, avec beaucoup d'informations, de ça, sans avoir qui donne une idée, mais après ça, ça donne n'importe quelle
idée. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que d'avoir d'autres tests présentement, c'est plus utile, donc ça ne sert pas à rien d'avoir des informations par les citoyens.
C'est ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si, là, je vous donne un exemple, puis je ne sais même pas s'il y a eu des problèmes-là. 27e avenue, il y a trois personnes qui nous écrivent et qui nous disent « J'ai un problème sur la 27e avenue ». Nous, ce qu'on regarde, c'est les trois adresses, les quatre, où elles sont, et on en cible un. On n'ira pas chez les quatre parce que c'est le même problème, ils sont sur le même réseau, ils sont sur le même circuit. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer quelqu'un en chercher un sur ce petit bout de réseau-là. Si on en a 10 sur la même rue, on n'ira pas chercher 10 échantillons.
Je comprends.
Chez tout le monde.
Ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la carte. Bon, vous n'avez pas eu le temps de regarder, évidemment, mais est-ce que sur la carte, dans les secteurs où ils sont les plus touchés, moi j'en ai, là, j'ai des décorations en noir et foncées sur la carte, est-ce que vous avez aussi fait des analyses chez des gens qui ont des problématiques d'eau potable importantes?
Les problématiques d'eau potable, il faut juste être sur les termes. Là, je ne sais pas si c'est motif, cette chose-là. Qu'est-ce qui définit l'eau comme potable? Le manganèse, c'est, ça ne gère pas ça. Donc, il n'y a pas de problématique d'eau potable écologique. Personnellement, je ne sais pas si c'est pas agréable. Je comprends ça. Le point, quoi, là, c'est dans le cas qu'on a la carte de la vie, j'ai été chez des citoyens. Quand il y a des épisodes de coloration comme ça, si vous avez ouvert votre robinet, vous avez un panache de prix qui est monté, vous le fermez, vous l'ouvrez juste le lendemain, vous le prenez. Il sort de 15 minutes. J'étais chez les citoyens pour ramasser des échantillons. Il faut attendre, parce que si je ne ramasse pas, c'est ce qu'il y a dans l'aqueduc. Mais autrement dit, c'est combien de temps que ça fait qu'il est dans le réseau de la maison. Est-ce qu'il peut avoir une oxydation qui s'est faite après, tu sais. J'essayais d'aller chercher vraiment les points qui sont dans l'aqueduc pour pouvoir que ça, corréler ça avec mon usine. Essayer de corréler ça avec d'autres événements qu'on avait sur le territoire. Donc, c'est sûr que vous avez fait des événements comme ça à créer. Ça donne une idée. Est-ce que je l'avais vu votre carte, là, avant? C'est pour ça, dans un cas comme ça, ça donne une idée du territoire. Mais en tant que tel, j'ai besoin de corréler. J'ai besoin de m'assurer que les données sont bonnes. Puis, c'est pas que c'est pas bon ce que vous avez fait. C'est pas ce que j'essaie d'insinuer. C'est que quand ça va partir en expertise, il faut que je m'assure que les données sont factuelles. Comme le formulaire qu'on a fait en ligne, ça enlève l'interprétation quand on dit la coloration de 1 à 7. Après ça, quand on va pouvoir la transmettre avec les données d'usine, on va souhaiter que s'il y a quoi qui vienne de l'expertise, vous puissiez nous donner des détails supplémentaires et nous les challenger.
Parfait. Donc, dans le fond, je m'en allais un petit peu plus par rapport au manganèse, plus que par rapport aux résultats. Donc, on dit que la coloration qui est plus ou moins foncée dans les résidences, ce serait dû au décollement de manganèse, donc ce serait plus ou moins important dans les conduites d'eau potable. Donc, si on n'a pas nécessairement les données d'analyse au robinet de ces citoyens-là où l'eau est fortement colorée, donc est-ce que vous êtes capable de garantir que cette eau-là ne passe pas le seuil dangereux par la santé, déterminé par Santé Canada, donc qui est de, excusez-moi, 0,12 centimes de milligramme par litre, donc qui est quand même pas mal rapproché, on est à 26 millièmes de milligramme de différence par rapport à ce que vous affichez comme un moyen maximal dans certains robinets. Donc, on se rapproche du seuil dangereux, mais avez-vous des résultats? Pouvez-vous nous confirmer que ce n'est pas dangereux dans certaines résidences de Témanganès?
Chose que je peux dire, c'était des tests qui ont été faits quand les parents se sont passés, qu'on savait qu'on commençait le jour de la fête. Les résultats sont revenus. Une forte coloration, les taux étaient plus élevés. Pour qu'est-ce qui est, mettons, même quand il y avait une coloration, on avait des taux qui étaient en dessous du CMA, la concentration maximale acceptable, à 0,08. Malgré le fait qu'il y avait une coloration dedans. Ce qu'on dit, c'est vraiment un problème de coloration, de l'oxydation, du manganèse. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il y a des. Ça crée une espèce de. Ça fait des flocs, ça se dépose dans le tuyau, puis c'est lâche. Puis après ça, avec cette vibration, les coups de volet, les coups de pellier, ça peut lutter ça dans le tuyau. C'est des choses qu'on a adressées. Fait, là, à partir de ce moment-là, on a beaucoup avancé ce dossier-là à l'usine. Mais en tant que tel, j'ai de la coloration qui est testée sous la concentration maximale acceptable. Oui, on a aussi des échantillons qui sont revenus, qui étaient, on a quand même plus d'échantillons clairs. Les échantillons clairs, en fait, c'est transparent. La concentration est faible et elle se rapproche de l'ordre esthétique. Puis, dernièrement, les résultats qu'on a, c'est 0,01, 0,02 dans le centre et 56 de l'eau.
Oui, je comprends parce que présentement, on n'est pas dans une période de pointe. C'est plutôt, c'est par, comme par saison en plus, on peut dire. Là, présentement, il y a un relâchement au niveau des problématiques. Là, donc, j'imagine que les taux vont descendre.
Mais je peux juste ajouter, oui. Par exemple, au niveau des consommations,
oui.
Les chiffres qu'on voit en consommation en mercure à l'heure sur l'heure du souper sont à peu près les mêmes qu'il y a un mois quand on avait des épisodes. On a des choses qui ont été des spécialistes à l'usine. On a écrit beaucoup de gens dans le processus pour justement formuler les experts de chacun des procédés. Après ça, on a beaucoup travaillé pour réduire ces coûts de valeur-là. On a amélioré la situation. Fait que oui, il y a un raissage qui s'en vient. Une fois que les particules vont être sorties du réseau, ça va être. Je vais le dire dans le même, je sais si c'est des gros mots, mais il n'y en aura plus après. Parce que les particules, on va s'assurer qu'ils vont être sorties. On va faire une surveillance qui va être accrue. Quand on va faire le rinçage, on va s'assurer que ça soit réglé. C'est sûr qu'après ça, l'amélioration qu'on a portée à l'usine va permettre d'avoir un meilleur procédé. Oui, les données qu'on a présentement sont bonnes. Oui, les données de consommation sont à peu près égales à ce qu'on avait quand il y avait la consommation, mais un mois quand il y avait des épisodes de coloration. C'est vraiment c'est des phénomènes physiques. C'est ça qu'on a adressé. Ça s'est beaucoup amélioré. Oui, qu'est-ce qu'on sortait bon malgré c'est pas le bon temps. Malgré la consommation qui est dans les heures de pointe qui sont très normales à l'heure.
D'accord. Donc, je vois qu'il y a un travail qui est fait. Évidemment, on vous avait annoncé que ça serait fait. C'est satisfaisant de voir qu'il y a des données qui s'affichent et tout ça. Donc, je voulais tout simplement donner parole comme ça parce que je sais que plusieurs citoyens sont inquiets par rapport au manganèse. C'est reconnu comme quoi que ça cause des problèmes neurologiques pour les enfants. Donc, il y a quand même des liens. Je vois que nos taux sont quand même rapprochés des taux dangereux pour la santé. Je vois que vous analysez ça aux résidences présentement. J'aimerais ça que ça puisse être public, un peu plus public ce qui se produit présentement, parce que comme là, j'étais un peu déçue en début d'assemblée de voir que ce n'était pas un point qui était mentionné à l'autre jour, étant donné que c'est quand même un problème qui est important, qui touche la santé de tous les citoyens ici. Donc, j'aurais aimé ça que ça soit un point.
Mais le point à l'autre jour, c'est quand on a fait une résolution. Alors, on n'avait pas de résolution de la journée où on va donner un contrat. Je sais qu'actuellement, je travaille avec la Chambre de l'eau. Et on va octroyer un contrat et ça va se faire par résolution. Ça devrait probablement être le mois prochain.
Parfait.
Et alors, ils sont à travailler pour essayer avec la Chambre de l'eau de ce. On rectifiera, mais on essaie de. D'enlever le manganèse à même dès que ça sort du puits. Okay? On tente pour avec la chaleur, mais il va s'occuper ça de la
maintenant, ce que je souhaiterais, moi, c'est que les informations soient un peu plus transparentes, puis qu'on ait accès plus facilement en information qu'il y a des communiqués de fait à la quotidienne, peut-être pas quotidiennement, mais à l'occasion par rapport aux avancées sur les problématiques de l'eau pour que les citoyens soient informés assez régulièrement parce que je sais que ça en inquiète plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible?
Oui.
Super. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Moi, la seule dernière question qui n'était pas sur l'eau potable, je ne sais pas si vous avez autre chose à me donner comme information.
Non, en fait, c'est selon vos questions. Si vous avez d'autres questions sur l'eau, je vais être disponible pour répondre. C'est...
Parfait. Pour le moment, ça va. Je vous remercie vraiment pour les réponses. J'ai une dernière question à vous poser. Donc, c'est certain que je suis enseignante, donc j'étais un peu inquiète en voyant ce qui se passe présentement dans les écoles du quartier parce que plusieurs enfants doivent aller ailleurs, dans d'autres écoles ou dans leur école qui n'est pas leur école de quartier. Que j'ai entendu ce que vous avez dit tantôt par rapport aux écoles. Quelle est la prochaine étape, dans le fond, après les demandes de la commission scolaire? Donc, quelles sont les prochaines étapes à venir?
OK. Mais la commission scolaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des demandes à Québec. Quand Québec leur octroie la permission d'agrandir, évidemment, il y a les subventions qui vont avec, ils le font. Alors, c'est vraiment là, la balle est dans le camp de Québec, là, actuellement.
OK. Donc, on attend les développements de ce côté.
Oui.
Parfait. Merci.
Bonsoir, Madame la mairesse. Concernant l'eau potable, j'aimerais que M. Pinchot me fasse nous peut-être des points à apporter à M. Pinchot. Comme on sait, M. Pinchot, rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, le manganèse qui est oxydé dans le conduit, forcément, vient des puits. Parce qu'on ne peut pas créer du manganèse dans le système. Donc, il est sûrement dispersé dans le réseau à partir du pompage des puits. Sauf que, à la sortie des puits, il n'est pas encore oxydé. C'est bien ça? L'oxydation crée la décoloration brune. Donc, parfait. Est-ce que durant l'hiver, quand il y a une faible consommation d'eau, ce manganèse oxydé-là peut se précipiter dans le conduit? S'agglomérer à certains endroits, quand il y a une forte demande, c'est là qu'on va avoir des périodes d'oxydation. Est-ce que c'est une hypothèse qui a été envisagée?
Oui, oui. Mais je vais le laisser répondre, mais oui, c'était ça à l'époque. À l'époque, c'est ce qu'on disait.
Oui.
Ça fait
l'eau.
Ah.
Fait qu'à la base, la question, c'est oui, il y a du manganèse dissous dans l'eau conduite. C'est connu dans ce type, on pourrait dire, de source d'eau qui est des types glaciaires. C'est normal. Le procédé qu'on a, c'est un média de micro-bactéries. Ça l'oxyde le manganèse, puis après ça, on nettoie cette
salivation.
Maintenant, l'autre partie qu'il va avoir, c'est celui qui va rentrer dans le réseau. Okay? C'est la concentration faible avec un chlore qui est normal. Le seul que j'ai vu me donner tantôt, le taux de résidence dans le réseau, mais normalement, il y a des chances que non, ça ne s'oxyde pas face à plaque. Mettons, parce que moi, j'en ai vu comme données. Mais sauf que l'oxydation du manganèse, si vous faites des recherches sur Internet, c'est pour le voir, là, le pH un des facteurs qui a le potentiel de stéoréduction. Est-ce que dans le tuyau en hiver, à température, pression, rendu là, c'est un processus qui sort de mon champ d'expertise. Est-ce que ça peut créer de la déposition? Je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Je sais que là, on en a vu. Après ça, on va travailler pour justement faire le rinçage. Mais c'est sûr que dans le processus, sachant qu'est-ce qui s'est passé, on va quand même garder un œil attentif sur le réseau. Parce que c'est sûr qu'on commence de plus en plus à connaître le processus d'oxydation du manganèse. Puis la chose qui est positive, c'est de ce qu'on a vu puis de ce qu'on s'informe. Le manganèse dissous va s'oxyder. Une fois qu'il est rendu oxydé dans notre réseau, il n'y a pas de mécanisme qui le remet en suspension sur sa forme dissoute. Ça prend certains soins, un sulfate, ou quelque chose qui le force à retourner en suspension. Fait que là, c'est tout ça, là, on connaît le dossier, puis on va s'organiser pour le poursuivre, s'assurer que même si la route de rinçage est faite, Même si on a une usine qui va être, on va s'assurer de garder le carré. On va dire d'utiliser le terme parfait, s'assurer de garder un œil ouvert pour pas que ça soit produit.
Est-ce que les vieux réseaux d'alimentation sont plus problématiques que les nouveaux?
Pour qu'un vieux réseau soit problématique, il faudrait que le vieux réseau influence le potentiel d'oxydoréduction. Fait que dans un cas comme ça, avec les conduites qu'on a, je doute fort, mais c'est pas côté chimique. Côté chimie, c'est ça, c'est, ça va au-delà de mes connaissances pour dire le type de matériaux qu'on a qui forment nos conduites. Ce que je peux dire, c'est que la majeure partie de nos conduites sont résistantes à l'abrasion. Donc, dans un cas où est-ce que ça fait qu'on a un réseau qui va durer plus longtemps, oui. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur le potentiel? Il faudrait poser la question à des gens qui seraient spécialisés là-dedans. Puis d'après moi, c'est pour un champ d'expertise qui est très, très poussé.
D'accord. Et, merci.
Bonsoir, Marc-André Daoud, 210 rue James. Question, on parlait de la nouvelle école que la commission scolaire a fait la demande. Est-ce que là, ça va être un problème de terrain finalement qui va arriver avec ça? Parce que je me rappelle la dernière fois, il voulait avoir une école absolument au sud du chemin de l'Oka.
Oui.
Là, avec ce qui s'est passé, on va parler d'expropriation finalement, parce que là, je ne vois pas où il pourrait construire une école, parce que là, on parle de quand même plusieurs classes. Ouais. Ça va être problématique parce que le seul terrain, c'est le terrain de la piscine finalement qui est assez grand pour avoir une nouvelle école. Donc ça va être quand même un dossier.
Mais moi, j'avais eu une discussion avec les gens de la commission scolaire, puis j'avais dit qu'ils pourraient peut-être aller en hauteur. Okay? Parce qu'on a trois écoles, puis ils ont deux étages maximum. Alors ils pourraient aller en hauteur. Mais là, je ne peux pas vous
dire. Parce que je regarde où, oui, c'est ça. C'est
je suis d'accord avec vous, mais.
Parce qu'on prend une cour d'école. Excusez-moi, madame, mais. C'est que ça va prendre une cour d'école, c'est François Rabiard, ça va prendre une cour d'école en conséquence des élèves qui vont être à l'intérieur. C'est bien beau qu'on rajoute des étages à une école, mais si on regarde en maison du lac, la cour d'école. Je ne suis pas sûr que si on rajoute un étage supplémentaire, en plus d'un agrandissement, qu'on va être capable d'accommoder tous les élèves à l'extérieur.
Mais là, ils ont déjà demandé pour l'horizon, ils veulent mettre 4 classes de maternelle. Donc, c'est que ça doit, la capacité pour la cour d'école doit quand même être.
Ouais. Pour l'agrandissement. Pour l'étage.
Le stationnement aussi pour les employés et tout et tout. Mais j'ai juste une petite question. Le point 5.1, c'est un changement de grille de spécification. On passait de 6 à 9 logements à 3.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu une demande dans ce sens-là pour que ça soit comme ça? Ou c'est quoi? Parce qu'on a un nouveau directeur d'urbanisme? Ou le pourquoi du changement soudain comme ça?
OK. Alors, on
me
dit que oui, c'est il y a eu une demande, mais on doit vérifier d'où émane cette demande-là.
OK. D'accord, c'est que je me demandais si c'était pour être de la location ou des condos, finalement, parce que le petit problème que je trouve avec la ville, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'on quand même, on manque de logements de locatifs quand même. Un petit peu, je me disais à la blague à ma conjointe, peut-être la semaine passée, s'il fallait qu'on se sépare et que les enfants fallait qu'ils restent à l'école, on serait dans le trouble. T'sais. L'école des grands-parents, il n'y a pas grand logement à côté de là. À moins de s'acheter une autre maison, mais disons qu'ils ne sont pas donnés dans ce coin-là, on n'a peut-être pas les moyens. Mais c'est peut-être à surveiller. Là, si on est pour faire des changements comme ça, là, peut-être avoir plus de logements locatifs, ce serait peut-être une bonne idée. Puis, une dernière petite chose, on va finir avec un petit peu d'humour, Mme la mairesse, un mot mesquin. Je ne pense pas que ça soit accepté à l'Assemblée nationale. Il faut déjà pas faire attention à ce qu'on dit.
Bonjour, François Rabiard. Concernant l'école, je pense que le travail que vous et votre équipe devez faire concernant le projet d'école, c'est pas attendre nécessairement après la commission scolaire, mais c'est commencer à trouver tout de suite un terrain susceptible de recevoir une école primaire. Je pense que c'est ça la priorité que vous deviez mettre en place, parce que c'est inévitable avec la construction qu'on a et puis les jeunes familles qui s'installent, on n'a pas le choix. Puis même que mes propres enfants, j'habite à côté d'une école primaire, il y a de fortes chances qu'ils n'y aillent pas à l'école qui est à proximité parce qu'il n'y a pas de place en tout cas. Je pense que la priorité, c'est ça. Concernant la piste cyclable qui a le long du boulevard des Promenades, à la dernière assemblée, j'ai posé la question comme quoi que est-ce que la ville est en train de parler avec Nouveau-Québec parce que la piste cyclable ben, laisse à désirer. On en est où avec les pourparlers avec Hydro-Québec concernant ce dossier?
Alors, nous, on a formulé une plainte à Hydro-Québec et Hydro-Québec vont vérifier avec l'entrepreneur qui a fait les travaux et ils vont nous revenir avec quelle est la position de et Hydro et le contrat qu'ils ont donné, quelles étaient les spécifications au contrat.
Parfait. J'ai reçu aussi la correspondance d'un monsieur qui a posé la question au président de la 34e concernant la circulation entre la 34e et entre la rue Louise et le chemin d'Oka. Quand ce monsieur-là peut s'attendre à un retour?
Je sais que le comité de circulation se rencontre au début septembre. Donc.
Okay.
Alors, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Hein?
Parfait. Pardon? Non, c'est un monsieur. Au niveau de la 37e avenue, vous m'avez envoyé aujourd'hui les plans concernant la construction là, de la descente de bateau. Là. Ma demande de mon passé, c'était plus au niveau là, du terrain qu'on a acquis du promoteur. Là, ce que je comprends, c'est que l'entente n'est pas signée encore.
L'entente n'est pas signée et ce n'est pas encore défini. Alors, je ne pouvais pas vous transmettre quoi que ce soit quant à l'emplacement exact où ça va être, mais vous aviez demandé pour la descente à bateau aussi, M. Rablan.
Concernant ça, le projet qui est sur la table, qui est accepté des 31 duplex, est-ce qu'il est toujours en vigueur, ce projet-là?
Oui.
OK. Et si on va chercher une partie du terrain, c'est que le projet à l'époque, c'était un projet intégré. Il rentrait par la rue Louise, puis il sortait après ça par la 37e. Est-ce que ça va être encore le cas?
Ça devrait être ça. Là, je n'ai pas vu les plans à jour, mais ça devrait être ça.
Est-ce que la 37e avenue va être capable d'absorber ces 31 duplex-là et tout l'achalandage que la Magna, la descente de bateau va emmener, parce que ça va être la seule descente de bateau que...
Non, parce qu'on va avoir la 13e avenue, puis on a la 29e.
La 29e, il faut être membre de l'organisme.
Oui.
Si on n'est pas résident, on ne peut pas accéder.
Mais ils en acceptent de l'extérieur de temps à autre, je peux vous dire ça.
Et au niveau du stationnement, on pense avoir plus de stationnement aussi au niveau de la 37e que de la 13e, parce qu'au niveau de la 37e, de la 13e, c'est quand même une problématique de stationner.
Oui.
À la fin de semaine.
Oui. Bien, c'est la problématique.
Surtout quand il y a de l'achalandage, il n'y en a pas beaucoup là, sur le terrain de stationnement.
Oui.
Fait que là, on ne sait pas trop encore concernant le projet. Puis fait que vous allez voir ça avec l'entente.
Bien, l'entente quant au terrain qu'on va acquérir, oui.
OK. La dernière fois qu'on a fait un rinçage unidirectionnel du réseau d'eau, c'est quand?
On n'en a pas fait l'année dernière parce qu'on était dans les inondations par-dessus la tête.
Ça remonte à 2018?
Oui.
À l'automne ou au printemps?
Honnêtement, je ne peux pas vous dire, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas de fait et on le sait. Et c'est pour ça qu'on s'est. On avait toujours dit qu'il fallait que notre circuit doit se boucler. Il est en train de se boucler à cause des constructions qu'il y a au nord à l'ouest de l'entrée d'autoroute qui est sur l'arrêt de Théoret. Et ce coin-là n'était pas développé. Ils sont en train de finaliser la tuyauterie qui va boucler là, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, la route de rinçage doit être refaite. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et la route de rinçage va être donnée à contrat dans les prochaines semaines.
Est-ce qu'on va revenir à du rinçage unidirectionnel deux fois par année?
On va tout faire pour en avoir deux fois par année.
Parfait. Quand vous avez répondu à mes questions du mois passé en début d'assemblée, il y a une question concernant les pompes qui sont à divers endroits sur le territoire. Ces pompes-là, ils servent pour en cas de panne.
C'était en cas de panne de courant parce qu'il y a certaines stations de pompage qui ne sont pas équipées avec des génératrices.
Okay. Ça, on loue ces pompes-là pour.
Mais on en a qui sont la propriété de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. À savoir, est-ce qu'elles sont toutes louées, je ne peux pas vous dire. Okay. Mais je sais qu'ils sont à regarder pour installer des génératrices partout, de façon à ne plus être obligé d'installer des pompes un peu partout.
Puis l'échéancier de ce projet-là, on parle de cette année ou de l'année prochaine?
Mais probablement au début de l'année prochaine.
Okay. Parce que là, en cas de panne, bien, on pompe l'eau du pluvial qu'on envoie dans l'égout.
Oui.
Ça a un coût en bout de ligne quand on s'en va au compteur, ça s'en va aux éteindries.
Oui, mais c'est pas si élevé que ça.
Parfait. Concernant, vous m'avez parlé de Mme Deloche, qui la problématique au niveau des dérogations mineures au niveau de l'asile. Donc, oui. Vous m'avez parlé que vous y allez cas par cas, puis vous avez fait référence aux résolutions qu'on a passées, aux deux, trois résolutions qu'on a passées plus tôt. Expliquez-moi comment vous avez travaillé cas par cas avec ces personnes-là dans ces résolutions-là. Moi, ma compréhension, c'est que ces personnes-là démolissent la fondation et en font une nouvelle.
Je vais juste vous référer à la 6.3, que j'ai pris au hasard, là, qui vise à permettre le remplacement des fondations existantes en bloc par des nouvelles fondations en béton cuit.
Ouais.
OK. Alors, on leur permet de remplacer ce qui est existant pour en mettre les. Alors.
Oui, mais moi, je suis d'accord, mais c'est parce que la problématique ici, c'est que la fondation, ils veulent rebâtir la maison sur les fondations existantes pour justement ne pas les démolir et les faire. C'est pour enlever ce coût-là. Dans ce cas-là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a. Défendre les fondations de blocs pour en recouler d'autres.
Mais non, c'est ce qu'on nous demande.
Oui, mais ce que je vous dis, c'est que dans le cas par cas, vous ne pouvez pas l'aider dans le cas par cas, Mme Meloche, dans sa problématique, parce que sa marge latérale n'est pas bonne, elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Fait que pour respecter la réglementation en vigueur, il faut démolir. C'est soit qu'elle garde la maison et qu'elle rénove la maison. Mais si elle en veut une nouvelle, il faut qu'elle démolisse l'ensemble de sa maison et non juste la partie de l'ossature de bois et de garder la fondation de béton. Parce que la fondation est toujours à déroge de la réglementation en vigueur. Pour faire une maison neuve, comme on dit, bien, il faut démolir l'ossature de bois et démolir la fondation pour en refaire une au complet. Et ça montre les coûts. Pas mal. cas par cas, c'est pas dans toutes les situations que vous allez régler le cas par cas.
Mais jusqu'à maintenant, les cas par cas ont fonctionné, alors on va continuer de cette façon-là.
Mais au niveau du gouvernement, est-ce que des pressions sont faites pour qu'on puisse accepter des dérogations mineures? Surtout dans le cas de Saint-Marc-sur-Lac, on est exceptionnel.
Mais c'est pour ça qu'on a une ZIS. Mais malheureusement, dans une ZIS, vous ne pouvez pas faire de dérogations mineures.
La question du pauvre, est-ce que vous avez des pressions?
On a téléphoné, on est entré en contact avec le ministère et malheureusement, c'est non.
Le point qui était porté au niveau de la tarification 5.5, vous avez parlé d'une coquille. C'est quoi la coquille qui pose problème?
C'est quant à la façon qu'ils ont phrasé pour les arbres. Alors, on a des questions à formuler au service d'urbanisme parce que de la façon que c'est rédigé, c'est qu'une personne qui... Nous, ce qu'on veut, c'est que s'il n'y a aucun arbre, et c'est surtout là, pour les gens qui sont au sud du chemin d'Oka, s'il y a des arbres matures sur le terrain et qu'ils ont démoli, qu'ils reconstruisent, on ne voit pas pourquoi on leur exigerait une somme d'argent pour le fond de l'arbre, puisqu'il y a déjà des arbres existants. Alors, c'est de la façon que c'est phrasé qu'on veut...
Demande de citoyens pour pas cacher dans mon secteur. Puis en même temps,
j'ai reçu les mêmes demandes. On était en train de regarder ce qu'on peut faire comme parc à chiens dans le haut de Sainte-Marthe-sur-Lac. Ouais. On a reçu quelques courriels à cet effet-là. Puis je peux vous dire qu'avec les travaux publics, j'en ai parlé la semaine dernière avec M. Pachot et son équipe.
OK. Puis en même temps, la plainte revient souvent à ce que l'aménagement du parc caché existant laisse à désirer. Ça prendra peut-être un petit pouce là, pour le réaliser.
Bien, je vais demander à ce qu'on vérifie qu'est-ce qui n'irait pas, là, mais moi, je n'ai plus aucune plainte à la ville.
Je vais vous envoyer la plainte, on parle de la porte fermale, on parle du ramassage des excréments, de l'eau aussi qui n'est pas disponible.
OK. On va regarder.
Fauchage de terrain de GBD dans les secteurs où est-ce que les projets sont terminés. On en est où avec le fauchage de ces terrains?
Le GBD, ça fait plusieurs fois que vous faites des demandes quant à GBD et ils ont reçu de la correspondance du service d'urbanisme à l'effet qu'ils doivent entretenir leur terrain.
OK. Et est-ce que ça a été coupé?
Je n'ai pas fait le suivi. Là, je me promène dans la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, mais je suis plus au sud du chemin d'automne.
Puis là, est-ce qu'on est... Donc là, vous ne savez pas à quelle étape on est rendu? Est-ce qu'on est dans des avertissements ou des...
Non, je ne peux pas vous dire à quelle étape on est. Mais je peux vous dire que les lignes qui a les terrains qui sont maintenant vacants a reçu de la correspondance et il est venu rencontrer le directeur cette semaine. Okay.
Dans les dépenses qu'on a adoptées au début, Trivium, c'est des avocats là, mandatés par la ville. Dans le dossier de Saint-Joseph et GBD, le montant est 53 678,89. Est-ce que c'est le montant final?
Sûrement pas. Il s'agit d'une injonction que GBD, Gestion Benoît Dumoulin, a pris contre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce qu'il voulait entrer dans le projet de Saint-Joseph-du-Lac via la rue de l'Érablière. On a reçu un vendredi on termine ici à midi, donc on a reçu l'action, la demande dans l'injonction, genre à midi moins 10. Et on nous demande en urgence s'il veut pouvoir passer par la rue de l'Érablière pour aller faire les travaux de construction de propriété à Saint-Joseph-du-Lac. Alors qu'il y a une entente entre Saint-Joseph-du-Lac et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'effet qu'on ne passe pas par la rivière Abière tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de feu de circulation fonctionnel au coin du chemin d'Oka. Alors, la GBD ou Gestion Benoît Dumais ou le groupe d'héritage, je ne peux pas vous dire lequel, a envoyé une injonction à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Évidemment, injonction égale urgence et les avocats doivent travailler la fin de semaine et ça coûte une fortune, on le sait tous. Et nous avons réussi la première étape de l'injonction. On a gagné, évidemment, la première étape. Il ne passe pas par le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac puisque le feu de circulation n'est pas fonctionnel. Suite à cela, Saint-Joseph-du-Lac a permis à GBD de passer pendant la période d'injonction et GBD se sont fait fermer l'entrée via Saint-Joseph. Alors, Gestion Benoît Dumais a dû prendre une injonction contre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, on s'est retrouvé avec une deuxième injonction, où évidemment, on devait être présent. Et à ce moment-là, le juge a accordé la permission parce que, chose que nous ne savions pas, il y avait une entente entre Gestion ou GBD. Il y a eu une entente à l'effet qu'il ne dérangerait pas les citoyens qui sont déjà dans ce secteur-là, mais qui étaient déjà construits et qui ne passeraient pas par là. Et ça, c'était une entente entre la municipalité et la corporation. Et à ce moment-là, ben, on s'est retrouvé avec le Saint-Joseph, ont permis pour les constructions qui sont débutées, ils terminent et le feu de circulation est maintenant donné en urgence et les travaux vont se faire. Et puis quand le feu de circulation va être fonctionnel, ils vont pouvoir passer dans la rivière Abière, mais pas avant.
Puis dans ce dossier-là, on a une entente qu'il faut faire le feu de circulation avant la fin de l'année.
C'est ce qu'on... Oui, on a signé, bien, on n'a pas signé, mais on a une entente à l'effet qu'on s'attend à ce que ce serait terminé d'ici au mois de décembre.
OK.
Et GBD a décidé de mettre en suspens les deux procédures, soit celle contre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et celle de Saint-Joseph-du-Lac, à la condition qu'il y ait quelqu'un qui suit le dossier de près, un ingénieur qui travaille régulièrement pour GBD.
Terrain de l'ancienne cour à Scrap Miron, est-ce qu'il est possible de m'envoyer des documents qui nous démontrent le fait que le terrain est bien décontaminé?
Je vais demander au service d'urbanisme de voir ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent vous transférer. Oui.
Parfait. Merci. Piscine. Vous me dites qu'on est rendu trop loin pour une consultation publique. Est-ce que les plans et devis sont complétés à combien de pourcents maintenant?
Honnêtement, je ne peux pas vous dire.
Est-ce qu'on est rendu à 99%, 100%? Est-ce qu'on est rendu au niveau qui sont complétés puis on est rendu pour l'appel d'offres ou on est encore à 75%? Parce que si on est encore à 75%, il n'est pas trop tard pour une consultation publique sur les plans et débits. La même chose à 99%. Il y a encore de la marge. Il n'y a pas personne qui peut me répondre là-dessus.
70%
en fait. À 70% en fait, ça veut dire qu'ils vont revenir à 95%, puis ils risquent de revenir à 99%. Il y avait ça ben, à 100% pour aller en appel d'offres. Ça veut dire qu'ils vont travailler à deux reprises des ingénieurs ou des architectes sur les plans. Ça veut dire que d'ici les prochaines semaines, vous avez le temps de faire une consultation publique puis de montrer aux citoyens c'est quoi un peu, à quoi ça va ressembler
Puis c'est là qu'on va pouvoir aussi demander l'opinion des citoyens, savoir est-ce que vous avez des bonnes idées pour peaufiner le projet, puis aussi de leur dire où est-ce que ça en va cette piscine-là. Parce que trois quarts des gens à Saint-Marc ne savent même pas à quel endroit elle va être construite, la piscine. Fait qu'on est rendu à 75% dans les plans.
Mais là, M. Rebiard, je pense que 80% de la population qui était ici l'année dernière sait très bien que la piscine s'en va de l'autre côté, à côté du parc Félix Leclerc.
J'attends un petit sondage, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ce qui se passe avec la piscine. Donc là-dessus, en sachant que les plans et devis sont à peu près à 70-75%, est-ce que vous allez tenir une consultation publique sur les plans et devis de la piscine?
Monsieur Rebiard, on ne voit pas la nécessité de montrer à la population et de leur demander est-ce que vous vouliez des casiers hommes-femmes? Voulez-vous des vestiaires mixtes? Non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé notre service ici des loisirs qui est allé avec des architectes, qui sont allés visiter des centres. On nous a donné les défauts de certains centres, des piscines, et on a travaillé avec, c'est le service des loisirs qui a travaillé avec les architectes, et ils en sont arrivés à un projet, et il faut aussi dire que la ville de Montagne est dans le projet. Alors, oui, ils sont arrivés à une finalité d'un projet avec une piscine intérieure, avec des vestiaires hommes-femmes, un mix pour quand le papa va avec son enfant, fille, qui puisse y aller. Alors, tout a été pensé à l'ère de 2020.
Je pense que ce n'est pas nécessairement juste de savoir où est-ce que les cases y vont. Un exemple, il y a c'est M. Baloche, je crois, il y a un an, il est venu au conseil et il a proposé de faire une piste de course intérieure pour que M. Baloche est une personne âgée, pour que les personnes âgées puissent marcher l'hiver, parce que c'est des initiatives comme ça qui peuvent être amenées à bonifier le projet. Et en plus, c'est que ça donnerait une bonne indication à comment va être aménagé notre centre-ville. Parce que ça fait partie intégrante du centre-ville. Puis en consultant les personnes, ces personnes-là aussi vont savoir vers quoi vous en allez là, avec le centre-ville. Avez-vous une idée de comment le centre-ville va être aménagé?
Pour le moment, non. Absolument pas. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que la piscine va être à côté du parc Félix Leclerc. Et là, vous savez pertinemment qu'on est en train de faire une étude pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il y a comme environnement dans sur le terrain qui est en face, qui est notre centre-ville.
Parce que la piscine, elle va faire partie intégrante du centre-ville. Il faudrait avoir une idée de ce qu'on s'attend à avoir du centre-ville pour que ça soit intégré.
Est-ce que le centre-ville va rester un boisé urbain comme certains veulent? Est-ce que le centre-ville va finir par avoir des bâtiments de 4 étages, 3 étages? On ne le sait pas pour l'instant. Okay.
Dans mes dernières questions, situation financière de la ville. Est-ce que présentement la situation financière de la ville la qualifier de bonne, moyenne ou moins bonne?
Elle est bonne.
Elle est bonne? Parfait. C'est tout.
Okay. Une petite question. Suivant alors, avec Francis Coudézera, c'est pas trop là.
Oui, yo.
Personnellement, les dérogations mineures, je viens de comprendre qu'il y a du cas par cas. Moi, j'ai déposé quelque chose au mois de février l'année dernière, puis j'ai eu aucune réponse de personne de la ville de Saint-Marc. Malgré quelques petites discussions du côté, puis ils disaient il y a une loi, puis maintenant, il n'y a plus aucune dérogation mineure. Désolé, peut-être un jour, on ne sait pas quand, dans une année ou deux, dans 5 ans, dans 10 ans, et pour l'instant, il n'y aura jamais de dérogation mineure dans la zone 10.
C'est vrai, dans la zone 10.
C'est vrai, mais là, je voudrais un peu comprendre sur le cas par cas. Parce que vous savez,
il faudrait regarder ce que vous aviez demandé à l'époque, puis il faudrait voir qu'est-ce qu'on a.
Parce que
Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas vu votre dossier. Et c'est, honnêtement, je ne les travaille pas, les dossiers d'urbanisme. C'est vraiment le service d'urbanisme. Alors, il faudrait voir quelle est votre demande et qu'est-ce qu'on vous avait répondu à l'époque. Et on regardera ce qu'il y a la possibilité de faire avec votre demande. Okay.
Là, ce que j'ai comme entendu, il y a peut-être des possibilités de monter des terrains qui sont adossés, comme vous l'avez dit. J'ai comme entendu peut-être des possibilités là.
Oui.
Et vous savez, depuis le début, je suis dans une cuvette avec des voisins qui sont tous des mètres plus haut que moi. Puis moi, je suis comme un peu poigné avec un milieu de rue pas plus haut que 2,5 mètres. Mais je suis rendu avec une nouvelle rue parce que ma maison fait face au lac, qui est déjà elle 2 mètres plus haut que chez moi. Fait que c'est un peu ça, là, je suis comme contraint avec ce qui est la route très très basse de mon quartier. Et moi, ce que je préfère, c'est face au lac. Je ne le vois plus du rez-de-chaussée, je ne le vois plus de nulle part. Je voudrais être en train de faire des travaux, de vraiment connaître. C'est quelque part de la nature nord, je veux dire, c'est un peu vague. Là. C'est comme juste, attends peut-être 6 mois, ça va être accepté. Ou peut-être dans 10 ans, tu vas être encore en train de te poser la question, je vais donner tout mon stage.
Ce que je vous suggère, c'est de passer au service d'urbanisme et d'aller voir la directrice du service.
Bien, tu sais, présentement, moi, la réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y a rien à faire.
Bien, moi, je vous dis, passez voir et ils vont regarder ce qu'il y a, qu'est-ce qui est possible dans votre cas.
Qu'est-ce que j'ai passé comme 4 fois, je me dis toujours c'est ça.
La dernière fois que vous êtes passé, c'est quand?
Ça fait un mois. Comme dit, il n'y a aucune dépression de l'âme qui part.
OK, bien, on va regarder votre dossier. OK.
Puis, concernant l'eau, j'ai entendu le magnanac et tout ça. Ce que je n'ai pas entendu, c'est la dureté de l'eau de Sainte-Marthe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est travaillé? Parce que moi, tous les équipements que j'ai, je suis vraiment en train, je n'ai jamais vécu une ville qui a une dureté d'eau comme ça. Je ne sais pas si c'est commun, mais avec d'autres puits, je sais que c'est quand même assez commun. Là. J'avais pas cette problématique-là quand je suis relié à deux montagnes, j'avais du dos, même la peau, les cheveux. On est content quand je vais en visite. Mes cheveux reviennent tout beaux, j'ai toute une belle peau. Quand je reviens à Sainte-Marthe, on sent la différence. C'est vraiment une dureté d'eau. Je sais pas qu'on me dit depuis des années qu'on travaille là-dessus, mais ça fait, comme chez moi, ça fait 10 ans. C'est à peu près qu'on est raccordé à. Qu'on fait des équipements différents, on a quand même un petit bout en tout cas. Bon, c'est pas loin de 10 ans. On a pas 8 ans.
Mais
c'est un long projet.
Oui, on sait qu'il y a un problème de dureté, mais c'est quand même filtré. Okay? Et M. Pinchot peut répondre.
Ben, vous avez un
non, il devrait. Bon.
Bon, mieux. Il y a de la dureté dans l'eau. On a la récupération qui traite la dureté. Là, présentement, les pesticides pas simplement gamètre, je suis concentré sur le procédé manganèse. Je commence à attaquer l'histoire des autres. On en regarde pour améliorer ce qu'on a. C'est justement, ça fait partie des choses qu'on a comparé qu'est-ce qu'il y avait initialement versus qu'est-ce qu'on a versus qu'est-ce qui est possible que c'est d'améliorer la situation. C'est sûr que c'est des choses qu'on veut regarder. Présentement, il y a beaucoup d'informations qu'on avance. On a parlé d'un mois avant d'envoyer à la firme, parce que la quantité d'informations le fait que je commence à la infiltration. C'est là que, présentement, je n'ai pas de réponse. Et c'est définitivement que c'est des choses qu'on en garde et ça va faire partie de la même façon. Ça se voit, il est déterminé où est-ce que c'est qu'on peut faire plus tard. Donc, ça va avoir les recommandations.
Good. Merci.
Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée qui propose la levée. Et qui l'a vu?
Oui, je l'ai
vu. Merci et bonne fin de soirée.
Je vais te faire une